quoi le plan ? Une effervescence d'avenir, d'égalité et de justice secoue la France et le monde. Jusqu'à présent, elle n'a pas su enclencher le frein d'urgence sur la voie des catastrophes planétaires et des dominations quotidiennes. Nous avons fait l'expérience de la force immense que nos luttes devront accumuler ensemble pour ébranler l'ordre existant. C'est quoi le plan ? Un podcast de la revue Contretemps propose de débattre de toutes nos stratégies pour bâtir un autre monde. Parfois, par chance, nous avons vu le monde d'après. Dans C'est quoi le plan ? Nous accueillons toutes les voix de celles et ceux qui en cherchent les chemins. Tous les guides de survie, les programmes, toutes les transitions, les planifications, tous les plans d'attaque nourrissent le débat stratégique. D'une façon ou d'une autre, les empires d'aujourd'hui seront les cendres de demain. Ils pourraient bien entraîner l'humanité dans leur chute. Alors, quel autre horizon nous reste-t-il ? Que faire pour l'atteindre ? Nous vous offrons une nouvelle réponse à chaque épisode de C'est quoi le plan ?
Bonjour à toutes et tous, je suis Théo Roumier, membre de la rédaction de Contretemps. Et aujourd'hui, nous recevons Romaric Godin. Romaric, bonjour.
Bonjour.
Donc Romaric, tu es journaliste à Mediapart, plus particulièrement sur les questions économiques. Et tu as publié en 2019 « La guerre sociale en France » et très récemment « Le problème à trois corps du capitalisme », tous deux aux éditions La Découverte. Mais nous te recevons aujourd'hui pour un petit ouvrage publié aux éditions Smolny qui s'appelle « Penser l'émancipation autrement, huit marxistes hétérodoxes » et qui va nous occuper un petit peu plus d'une heure aujourd'hui. Alors, peut-être première question un petit peu pour lancer la discussion. L'ouvrage s'intitule « Penser l'émancipation autrement ». Pourquoi autrement ? Quelle est cette manière de penser l'émancipation qui serait un peu différente par rapport à quoi ? Et on parle de huit marxistes hétérodoxes. Bon, peut-être nous dire brièvement lesquels. Et quelle hétérodoxie ? Et par rapport à quelle orthodoxie, justement ?
Alors, l'idée de regrouper hein, ces articles, qui sont des articles que j'ai écrits entre 2020 et 2025 dans les séries d'été de Mediapart, c'était un petit peu l'idée de devoir présenter une pensée qui est une pensée marxiste, qui s'inspire, dont le point de départ est la pensée de Marx, mais qui sont un peu du côté des perdants de l'histoire, on va dire, des doubles perdants de l'histoire. Perdants, évidemment, parce que ils ont été oubliés volontairement par, évidemment, la pensée capitaliste, la pensée bourgeoise, mais également parce que en grande partie, leur pensée, ou une partie de leur pensée pour certains, ont été également combattus à l'intérieur du camp de l'émancipation, hein, du camp de la gauche, du camp de la révolution, on pourra préciser tout ça après si vous voulez, mais qui ont été un peu à la marge, on va dire, des grands mouvements de pensée qui ont irrigué le mouvement politique d'émancipation jusqu'à nos jours. Et l'idée que j'ai eue, moi, en traitant un peu ces biographies dans les séries d'été qui ont été reprises dans ce livre, c'était un peu de faire renaître un peu ces huit personnes pour montrer que précisément, ils avaient une proposition à nous faire en termes de ce qu'était l'émancipation et ce qu'était le marxisme, qui me paraissait, moi, à la fois original par rapport à ce qu'on entend régulièrement et qui venait un peu, sur certains points que j'essaye d'identifier, qui venait en écho à ce que, aux problématiques du présent. Alors, simplement, peut-être pour préciser, parce que là, j'ai été quand même assez flou. Qu'est-ce que c'est que cette hétérodoxie exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette vision particulière de l'émancipation ? Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que moi, j'ai pas essayé, et l'équipe de Smolny non plus, de proposer une sorte de nouveau bréviaire hein, de la pensée marxiste qui, effectivement, traiterait de tous les sujets et épuiserait complètement le champ de l'émancipation, et surtout qui aurait une cohérence absolue entre ces huit penseurs. On a assumé, justement, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de grand texte qui l'accompagne pour essayer d'expliquer cette cohérence, on a assumé, finalement, d'avoir une sorte de dialogue à huit voix, donc d'octologue, on va dire, de débat, on va dire, à huit voix entre ces huit penseurs et d'ouvrir en fait comme ça un peu des portes qui moi jusqu'ici me semble pas réellement ouvertes. Alors on rentrera sans doute dans le détail, mais grosso modo les points centraux qui font que sans avoir de cohérence ces gens peuvent finalement dialoguer entre eux, c'est le fait que d'abord ils ont une pensée qui va effectivement au centre du capitalisme, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent le combat contre le capitalisme, qu'ils perçoivent comme une émancipation, comme un combat contre son centre névralgique qui est l'accumulation. Et ils tentent, chacune à leur façon, parfois avec des retours, parfois avec des échecs, ils tentent de comprendre comment la lutte de classe peut s'organiser autour de ce but commun qui est l'émancipation, entendue comme l'émancipation de la domination du capital et l'émancipation de la domination centrale du capital dans la société. Donc il y a quelque chose qui est en commun chez eux, qui est réellement cette volonté de transformer la société en transformant précisément le centre. Ce qui les a amenés naturellement à avoir des débats et des conflits avec d'autres penseurs de gauche, d'autres courants de la gauche, hein, qui eux pensaient que ce centre-là n'était pas tout à fait celui-là, que finalement le centre du système capitaliste n'était pas la production de valeur en tant que telle, mais peut-être plus la propriété privée formelle, on va dire. D'autres qui pensaient qu'en fait, on pouvait s'arranger avec le capitalisme et aller au socialisme en fait par une transformation progressive du capitalisme en jouant le jeu du capitalisme. Donc, pour être très clair, d'un côté les sociaux-démocrates et de l'autre côté le marxisme-léninisme et en particulier l'orthodoxie marxiste-léniniste qui s'est constituée dans les années 20 et dans les années 30 en Union soviétique. Et c'est vrai que ces huit penseurs-là, ils ont pensé aux marges de ces deux grands courants qui ont construit la pensée et le mouvement de la gauche en Occident. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est aussi pour ça qu'il y a un élément biographique dans ces textes. Hein. C'est pour montrer que, pour la plupart, soit ils sont dû rentrer dans le rang, comme Lukács ou en partie Grossman, soit finalement, ils se sont retrouvés complètement marginalisés et ils sont morts un peu isolés avec les quelques personnes qui encore les suivaient, mais qui effectivement, où ils avaient très peu effectivement d'impact sur le gros du mouvement d'émancipation. Donc c'est pour ça, ce sont des gens un peu à la marge et qui en même temps parlent de ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est le capitalisme et la façon de le combattre, puisque encore plus qu'à leur époque, évidemment, à leur époque, c'est important puisqu'ils ont tous quasiment, à l'exception de Rosa Luxembourg qui est morte plus tôt, mais qui est morte d'une forme de fascisme, ils ont tous connu évidemment le fascisme en Europe. Mais comme le fascisme revient par la fenêtre ces temps-ci, il se trouve que effectivement, ces pensées sont pour moi des pensées qui sont particulièrement actuelles.
Ils ont connu tous, sauf Rosa Luxembourg, tu l'as dit, encore que, effectivement, les corps francs, Mais le fascisme, et surtout le grand événement historique, c'est la déflagration de 1917 et de la révolution russe. Là, tu l'as un petit peu dit, puisqu'ils se positionnent vis-à-vis des bolcheviks, vis-à-vis des léninistes, hein, comme dirait Guérin d'ailleurs, hein, une des choses qui, en tout cas, pas tous complètement, mais qui les relie, c'est un peu l'idée de séparer Marx de Lénine. Mais sur la question de 1917, sur la question de la révolution russe, ça va aussi déchaîner toute une série de révolutions. Donc il y a eu la révolution hongroise, il y a eu quand même la révolution allemande, le système des conseils, notamment la République des conseils de Bavière, ailleurs, etc. Et cette question de la démocratie est quelque chose aussi qu'ils ont vécu pleinement comme moment clé, construction d'une politique d'émancipation, avec en l'occurrence un échec tragique, puisque l'échec de cette démocratie radicale, en réalité, hein, qui a été ce moment-là des révolutions manquées. Conseilliste, c'est pas le bon mot, parce que c'était pas forcément un mouvement en tant que tel identifiable, mais ça a été une des clés aussi de la montée vers le fascisme. Est-ce qu'on pourrait peut-être, pour commencer un petit peu, parce qu'on ne va pas traiter de nos 8 marxistes hétérodoxes,
j'ai essayé et c'est particulièrement ennuyeux.
Et puis il faut lire le livre, c'est voilà. Mais là, l'idée, ce serait plutôt d'aller chercher un petit peu des thèmes sur lesquels ils se sont exprimés. Et effectivement, moi, il me semble qu'un des thèmes qui est important, c'est celui de la démocratie.
Oui, alors encore une fois, il n'y a pas de cohérence d'ensemble, ce qui fait que certains des auteurs ne traitent pas ça de façon centrale, mais ils sont reliés aux autres par d'autres points sur lesquels on viendra plus tard. Mais je pense que là-dessus, tu as raison, c'est un élément important, à la fois sur le plan de l'expérience vécue, parce que effectivement, ce sont quasiment tous ont ce point commun d'avoir été marqués par la période 1917. On va dire 1923 pour voir très large, qui est celle effectivement d'une vague révolutionnaire où précisément, et ça en fait on a maintenant des travaux d'historiens qui viennent véritablement alimenter ça, où en fait les classes ouvrières occidentales ne se soulèvent pas pour améliorer le capitalisme mais bien pour l'abattre. Et là-dessus, la révolution de 1917 est un déclencheur et est un élément important, mais elle n'est pas la seule voie, et elle n'est pas la seule voie empruntée en termes de pratique et d'objectifs. Effectivement, il y a une diversité d'expériences que, en fait, parmi les 8, on va avoir, enfin, les gens vont vivre et cette expérience va alimenter leur réflexion. Lukács est un ministre de la République des soviets de Hongrie. Rühle a fait la révolution allemande en Saxe, où il est. Pankouk a été actif, évidemment, à Brême principalement, mais il a participé, évidemment, à tout ça. Sylvia Pankhurst a été active à Londres dans un moment où c'est un peu oublié, mais en fait, il y avait un mouvement ouvrier britannique extrêmement puissant et qui était un mouvement de contestation également du capitalisme dans lequel elle s'est représentée et enfin elle a été présente. Et d'ailleurs, Pankouk, Pankhurst et un autre qui n'est pas là mais qui est Herman Gorter qui est un compagnon de Pankouk, lui aussi néerlandais, ce sont les trois principale personne visée par le pamphlet de Lénine, hein, le gauchisme maladie infantile du communisme, qui précisément essaye de définir une forme de révolution qui, ou de clore en quelque sorte cette diversité, on va dire, révolutionnaire et démocratique qui se déploie en Europe à ce moment-là, avec l'instauration, hein, d'une ligne qui est décidée à partir de Moscou en fonction des intérêts de la révolution russe, qui considère être la seule révolution à succès à ce moment-là. Bon, donc effectivement, j'ai été un peu long, mais j'ai voulu un peu compléter ce que tu avais dit, parce que c'est un élément qui est central. Tous ont traversé cette période et ont été marqués par ces expériences de démocratie radicale. Alors après, il y a cette expérience, elle va avoir un impact très long sur ces penseurs, hein. Ils vont développer une pensée, parfois ils vont arrêter de penser parce que, justement, dans le cas de Lukács, on va leur dire faut arrêter. Donc, il a fait le choix d'arrêter, ça le regarde. Mais enfin, il va revenir à la fin de sa vie, notamment sur cette révolution, dans un texte où la démocratie, précisément, est centrale. Et c'est assez intéressant. Alors, l'idée que développe notamment Pankouk, qui est un des penseurs importants de ce qu'on appelle, à mon avis, tu as raison, à tort, le mouvement conseilliste, parce que pour le coup, Pankouk est vraiment tout sauf un fétichiste, de la forme conseilliste, hein. Il a même quitté en fait le parti conseilliste allemand, le KAPD, pour cette raison-là, parce que voilà, il y avait une forme de fétichisme où il suffisait en fait, hein, de dire conseil, et puis la révolution surgirait. Donc lui, il n'est pas évidemment sur cette position-là. Mais l'idée centrale de Pankouk, c'est de dire, ben, en fait, on ne peut pas émanciper les gens si les gens ne veulent pas être émancipés. C'est aussi bête que ça. Ça paraît d'une banalité confondante, mais en réalité, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ben, l'émancipation, elle ne peut venir que de la pratique révolutionnaire. Cette pratique révolutionnaire, c'est pas une pratique d'aller casser des magasins pour casser les magasins. C'est pas la pratique uniquement de la violence révolutionnaire. C'est évidemment, il y a dans la pratique révolutionnaire un élément de violence révolutionnaire, mais l'élément central de la pratique révolutionnaire, est ce que les mouvements de 1918-1920 expriment très fortement, c'est que la pratique révolutionnaire est une pratique où les travailleurs prennent en charge en fait la société. Ils deviennent conscients qu'en prenant possession des moyens de production, ils ne sont pas juste propriétaires des moyens de production, ils sont en fait en charge des besoins de la société, donc de la définition de ces besoins, et donc de l'organisation sociale nouvelle. Et ça, ça suppose évidemment qu'ils aient envie de le faire. Et pour qu'ils aient envie de le faire... Bon, alors après, il y a plein de... Et c'est là où peut-être le livre peut être intéressant, parce qu'il y a plein de différences et de dialogues, notamment entre Rosa Luxembourg, qui insiste beaucoup sur l'importance de la forme de l'état de droit, on dirait aujourd'hui, en quelque sorte, hein, qui estime qu'il y a quelque chose à jouer dans la démocratie bourgeoise, mais à condition de combattre le système bourgeois dans cette démocratie bourgeoise. Et puis Pankouk, qui lui, mais aussi avec un Otto Rühle, par exemple, hein, qui lui va jusqu'à rejeter la forme parti en tant que telle. Mais Pankouk ne rejette pas formellement la forme parti, enfin, directement, mais enfin, Pankouk quitte toutes les organisations. Et il n'est pas très loin, en fait, de la position de Rühle à certains moments, parce qu'effectivement, il sent bien que si les gens doivent, en fait, prendre en charge ce basculement révolutionnaire, s'ils doivent prendre en charge cette démocratie radicale, c'est-à-dire une démocratie qui ne se limite pas aux formes démocratiques de la démocratie libérale, mais qui implique, en fait, l'organisation sociale et économique de la société, c'est-à-dire qui s'attaque au cœur de la société capitaliste, qu'est l'accumulation du capital, eh bien, dans ce cas-là, il faut que ce soit eux-mêmes qui le fassent. C'est-à-dire que personne, aucune organisation avec des chefs, avec des structures, ne peut le faire à leur place, parce qu'eux, ils vont, en fait, gérer cette organisation et la survie de cette organisation plutôt que de gérer, en fait, l'élément démocratique. Donc, on voit, il y a des débats qui sont, Lukács, on en reparlera peut-être après, à une autre vision encore, mais tout ça, ça me semble intéressant parce que il n'y a pas de rejet de la démocratie chez ces penseurs-là. Au contraire, il y a une volonté de radicaliser la démocratie au sens plein du terme, c'est-à-dire c'est le pouvoir du démos, c'est le pouvoir de ceux qui en fait, font la société. De ceux qui vivent dans cette société et qui la font concrètement. Et ça, c'est un élément qui est essentiel aussi et qui ramène à une division hein, centrale dans le marxisme entre, évidemment, les forces productives et improductives. Et donc, il y a quelque chose qui est aussi important dans cette idée de conseil ouvrier, même si, encore une fois, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'à un moment, cette prise de position, cette prise de pouvoir de la production implique quelque chose de politique. Et ce quelque chose de politique, c'est celui de... Ça implique, en fait, la démocratie. Et ça vient à l'encontre, effectivement, de tout ce qui essaye de contraindre cette démocratie, soit les organisations, soit, évidemment, des institutions précises. Alors, encore une fois, là encore, Rosa Luxembourg est un peu plus modérée de ce point de vue-là. Mais ou en tout cas... va discuter, on va dire, ce point de vue-là. Mais quand même, il y a quelque chose qui est central là-dedans, dans cette radicalisation de la démocratie.
Je voudrais revenir justement sur cette question. Le débat, il n'y a pas eu de débat Luxembourg-Pankouk où ils se sont rencontrés et puis...
Parce que Pankouk était plutôt d'accord avec Rosa Luxembourg quand elle était en... quand il s'agissait de faire voilà. Ce débat-là. Il a
mais,
changé
mais quand on prend leur... deux conceptions justement de la démocratie radicale. C'est pour ça que je ne sais pas si Rosa Luxembourg était plus modérée, mais en tout cas, elle posait un élément de la démocratie qui était en gros, pas forcément celle de l'état de droit ou de la démocratie. Bon, même elle dit ça hein, sur la question des libertés, que la liberté, c'est d'abord la liberté de celui qui ne pense pas comme nous, etc. Mais c'est la question de l'intérêt général. C'est-à-dire comment est-ce qu'on manifeste l'intérêt général? Et ça, c'est un débat qui est très intéressant sur la question de la démocratie, qui a rebondi dans les années 70 autour du débat sur l'autogestion, sur la planification autogestionnaire. C'est-à-dire quelle articulation on fait sur le, bah justement une démocratie. On va dire que Pankouk développe une vision un peu industrielle dont la base est l'usine, la fabrique, et que on parle des conseils ouvriers. C'est là le citoyen producteur se situe le pouvoir, et en même temps Rosa Luxembourg, ce qu'elle pose un petit peu comme question, qui est une question intéressante, qui est celle de est-ce que l'accumulation des décisions de citoyens producteurs dans leurs fabriques respectives matérialise l'intérêt général. Et du coup, elle préconise une sorte de système à double chambre, hein, dans une manière d'imaginer comme ça quelque chose qui combinerait des élections centrales, c'est-à-dire qui maintiendrait la politique et le débat politique, avec quand même, elle est attachée à ça, hein, la question des citoyens producteurs. Hein. Plus tard, hein, si on prend, pour rester sur quelqu'un comme Matic, lui, par contre, la démocratie bourgeoise, c'est niette, rien à faire. La seule chose importante, le seul combat, y compris par rapport au fascisme, c'est abattre le capitalisme et ne discutons pas de forme d'état de droit, par exemple. Tout ça, c'est, donc, on voit bien, hein, qu'il y a des différences, mais il me semble, hein, vraiment que cette question de l'intérêt général, elle est intéressante parce qu'on la retrouve aussi dans les manifestations aujourd'hui, par exemple, notamment quand il y a les manifestations au cours de lorsqu'il y a un 49-3, par exemple, sur une réforme concernant les retraites, on va avoir des cortèges où ce qui va un des slogans qui va être repris, ça va être « la vraie démocratie, elle est ici », par exemple. Hein. Et ça, c'est une manière de dire « c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons ». Voilà, des choses comme ça qui rejoignent en réalité cette aspiration-là qu'on retrouve chez les penseurs et penseuses auxquelles tu t'es intéressé.
Ouais, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est, pour le coup, vraiment très actuel dans ce débat-là. D'abord parce que nous vivons dans une démocratie libérale dégradée, qui va se dégradant, et que donc la question que pose Rosa Luxembourg de ce pouvoir duel, hein, qui est un peu, c'est un élément important, parce que ce qui fait révolution souvent, c'est précisément l'existence de deux pouvoirs concurrents ou complémentaires, ça, mais on voit bien. Par exemple, la révolution de 92 en France, il y a la Commune de Paris et le Comité de salut public ou la Convention. Et les deux, en fait, fonctionnent cas, mais ensemble, on va dire. Bon. Et représentent, on va dire, des phases, des formes différentes d'aspiration démocratique et d'aspiration précisément à cet intérêt, à la définition de cet intérêt général. Et donc, l'idée de Rosa Luxembourg, c'est de dire on peut utiliser, en fait, les formes de la démocratie bourgeoise pour créer ce que une des chercheuses que je cite dit un espace public prolétarien. L'espace public prolétarien, c'est finalement réussir à mettre dans l'assemblée normale, l'assemblée de la démocratie libérale, on va
celle
dire.
Celle des autres.
Celle des autres. Eh bien, c'est de venir, en fait, mettre les intérêts de l'autre assemblée, de celle des travailleurs, et de dire, en fait, nous sommes les travailleurs, c'est nous qui, en fait, faisons fonctionner cette société, qui, par ailleurs, ne nous convient pas, et donc, en fait, on va imposer aussi à ce qui est censé représenter l'intérêt général, qui sont ces fameuses assemblées représentatives, hein, on va imposer notre agenda aussi de ce point de vue-là. Et on va finalement imposer ce qui est important pour nous dans ce débat public qui souvent, en fait, et on le voit aujourd'hui, est capturé par les intérêts du capital, en dépit de l'aspect représentatif. Ou peut-être parce que c'est un aspect représentatif. Donc ça, c'est cette Rosa Luxembourg, elle a, c'est une pensée très subtile, celle de Rosa Luxembourg. C'est une pensée qui, effectivement, joue beaucoup sur des formes d'équilibre, de contrepoint, où on va réussir à étendre. L'idée de Rosa Luxembourg, c'est que la révolution, elle arrive quand, finalement, la majorité du prolétariat est convaincue qu'elle doit arriver. En cela, c'est pas très très loin de ce que pense Pankouk, mais c'est évidemment sous une forme beaucoup plus subtile où on joue des formes de la démocratie existante pour pouvoir imposer un changement de régime économique et social. À l'inverse, les autres, en fait, mais c'est aussi ça, les autres, ils ont connu le meurtre de Rosa Luxembourg. La pauvre l'a connue également, mais elle n'a pas pu évidemment analyser son propre assassinat, mais les autres, ils ont pu le faire. Et en fait, il le voit effectivement comme une forme d'impossibilité de la voie proposée par Rosa Luxembourg. Et pour ça, Pankouk est intéressant, parce que lui, c'est une figure de la social-démocratie allemande, même s'il est néerlandais, d'avant la Première Guerre mondiale. Donc il participe à ces débats-là, il est assez proche de Rosa Luxembourg, même s'il y a déjà des distinctions qui se font, parce que Pankouk a une vision du marxisme très particulière. Hein. C'est sa thèse avec un autre penseur allemand qui s'appelle Ditzgen. Voilà, donc ça l'identifie de façon particulière. Mais enfin, dans ces débats-là, il est assez proche de Rosa Luxembourg à ce moment-là. Mais lui, il connaît l'assassinat de Rosa Luxembourg. Et il dit... Il en tire cette conclusion très simple. Et alors, il connaît l'assassinat de Rosa Luxembourg, et puis il connaît aussi ce qui s'est passé en Russie. Et donc...
Il connaît Kronstadt, il connaît... Voilà.
Donc lui, il va tirer, en fait, il va essayer de tirer une pensée où on va prendre en compte ces deux éléments-là. C'est-à-dire l'élément que quand la démocratie libérale se sent en danger... C'est-à-dire précisément quand la stratégie de Rosa Luxembourg commence à devenir un succès, ben en fait, la répression reprend le dessus et la démocratie libérale déchire ses vêtements. Mais bon, ça, on le vit aussi, nous. On voit bien que nous, notre démocratie, qui aujourd'hui est saluée par nos dirigeants comme une forme de rempart contre le néofascisme de Trump, etc., ben en fait, quand elle est contestée, elle lâche les chiens. Pour reprendre le terme de Ernst Nolte, le ministre social-démocrate, qui se définissait comme chien sanglant de la République. Donc, il y a cette idée chez Pankouk qu'en fait, la pensée de Rosa Luxembourg, là, elle ne fonctionne pas. Et comme par ailleurs, la pensée d'une idée d'une avant-garde qui prendrait le pouvoir et qui ensuite s'attacherait à convertir les masses à sa propre idéologie, évidemment, tout ça est caricatural, mais pour aller vite, on va pas faire une thèse sur la position de Lénine là-dessus. Elle fonctionne pas non plus du point de vue de Pankouk. Pankouk dit, en fait, la démocratie, elle doit en fait se ramener aux travailleurs eux-mêmes et ne dépendre que des travailleurs eux-mêmes. Ils ne peuvent pas compter sur les institutions bourgeoises. Les institutions bourgeoises, à un moment ou à un autre, défendront des institutions bourgeoises. Et là où d'ailleurs, Korsch aussi va dans ce sens-là. Et je voudrais juste terminer ensuite, parce que je pense que c'est un élément important pour introduire Korsch. En fait, c'est là où Pankouk est assez intéressant. Dans les années 30-40, il va analyser la révolution russe comme une révolution bourgeoise. C'est-à-dire comme une révolution où, précisément, une partie de la bourgeoisie intellectuelle en l'occurrence, va prendre le pouvoir... pour, en quelque sorte, discipliner le monde du travail. Et d'une certaine façon, pour casser le mouvement révolutionnaire qui était là. Et donc, c'est pour ça que Pankouk et Rühle, notamment, rejettent la forme parti, qui est pour eux la forme... de l'organisation bourgeoise du mouvement révolutionnaire. Et donc, l'organisation bourgeoise du mouvement révolutionnaire, ça donne, en fait, Moscou 1928. Quoi. Donc c'est aussi ce chemin-là qui est emprunté. Mais si tu me le permets, je voudrais juste terminer sur cette question de la démocratie en évoquant un penseur dont on n'a pas parlé, qui est Karl Korsch, qui a vécu le mouvement révolutionnaire, évidemment, de cette époque-là, et qui a notamment vécu la dernière tentative d'union des gauches dans l'Allemagne de Weimar, hein, en 1923. Il a été très brièvement ministre de la Justice du Land de Thuringe, qui était un land en fait, d'alliance entre le SPD, le KPD, le Parti communiste allemand, dont il était membre. En 1923, donc, le président du Reich, hein, ça s'appelait comme ça, Friedrich Ebert, qui est un social-démocrate, une figure de la social-démocratie jusqu'à aujourd'hui en Allemagne, décide d'imposer la loi fédérale sur les deux Länder qui ont fait cette alliance KPD-SPD, l'armée fédérale est envoyée en fait dans ces lenders-là et les gouvernements sont dissous. Gouvernement dirigé par des sociaux-démocrates et dissous par un président social-démocrate. Bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience-là aussi, Korsch, il voit tout de suite, en fait, lui aussi, les limites de la démocratie bourgeoise et de l'idée de passer, finalement, de mettre le pied dans la porte et d'essayer d'entrer par ce biais-là, par la création de ce fameux espace public prolétarien. Et donc, lui, il va développer déjà, d'ailleurs, avant cette expérience-là, puisque en fait, il écrit son grand livre « Marxisme et philosophie » durant l'année 23, donc avant même cette expérience-là, mais je pense que ça correspond à ça. Pour lui, il va expliquer que le cœur, évidemment, du mouvement révolutionnaire, c'est cette dualité entre la pratique et la théorie, et que les théories sont là, en fait, en appui des pratiques, et inversement. Et donc, que c'est cette centralité de la pratique qui fait précisément le mouvement révolutionnaire. C'est lui qui permet, en fait, de créer les théories qui vont permettre, à leur tour, de donner une dimension politique au mouvement social. C'est le mouvement social qui naît, qui va donner à la pratique, à la théorie, ce contenu, parce que en fait, la théorie, c'est le contenu issu de cette pratique-là. Et en retour, la théorie va venir donner, en quelque sorte, un but, des formes d'action à cette pratique révolutionnaire, et va faire que, pour aller vite, une révolution n'est pas simplement une jacquerie, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est cette dialectique pratique théorie qui est exprimée dans Marxisme et philosophie qui permet précisément de penser l'organisation des mouvements révolutionnaires et cette forme de démocratie. C'est-à-dire que les travailleurs, d'une certaine façon, exercent ce pouvoir qu'ils ont dans leur... Et puis ils construisent, à l'issue de ça, des théories qui leur permettra ensuite de construire une société alternative à celle du capitalisme. Et ça, c'est évidemment cette centralité de la pratique. Là aussi, elle s'oppose à des positions où on a une vision a priori, où on arrive avec une organisation, une idéologie toute faite, et qu'on impose ça, effectivement, au mouvement social. Ça, c'est quelque chose qui est rejeté, évidemment, par Korsch, mais également par Pankouk, par Rühle, et en grande partie par Rosa Luxembourg, d'ailleurs.
Ça, c'est très important, parce que c'est vraiment... ça correspond aussi à une vision qui articule la question des crises politiques, parce qu'on parle souvent de crise politique, on parle mais de la crise politique qui est un phénomène lié à la crise du capitalisme. C'est-à-dire que la conception des crises, Paul Mathy il dit ça, il dit parce qu'on dans le marxisme orthodoxe, il y a une manière de penser comme ça, le capitalisme, qui est quelque chose qui, fatalement, à terme, va s'effondrer, etc. Et là, ce sera le moment mûr pour le marxisme orthodoxe, qui peut être social-démocrate ou bolchevique.
Et d'ailleurs, j'ajoute juste que, précisément, Korsch et Pankouk vont montrer, mais Rühle aussi d'ailleurs, vont montrer que le marxisme orthodoxe a deux faces. Kautsky et Lénine, la social-démocratie et le bolchevisme.
Et les deux s'alimentant et d'ailleurs s'inspirant. Enfin, en tout cas, voilà. Mais sur cette histoire de crise, c'est comment est-ce que... il dit ça, sur la base de l'analyse des crises du capitalisme. La question n'est pas de savoir si le capitalisme, le système capitaliste va s'effondrer, mais plutôt pourquoi il ne l'a pas déjà fait. Et il parle de tendances qui contrecarrent cette tendance. Et les tendances qui contrecarrent cette tendance, ça peut être le recours à une forme de capitalisme d'État. Effectivement, finalement, l'URSS, pour beaucoup d'analystes et de marxistes hétérodoxes, pour le coup, était une forme de capitalisme d'État. On peut même imaginer que la période qu'on a traversée du Covid, j'en discutais avec un camarade syndicaliste au tout début du Covid, il disait, mais en fait, une des seules solutions qu'a la bourgeoisie là maintenant, c'est d'instaurer une forme de capitalisme d'État pour passer ce moment-là. Alors pas là, pour le coup, c'est des choses que elle et eux n'avaient pas pensé dans les années 20, qui sont les questions de pandémie, de crise climatique, etc. Mais néanmoins, cette articulation de la crise économique, de la crise politique, pose du coup comme seul recours. Non pas les institutions bourgeoises, mais l'enjeu de la lutte de classe et de l'intervention directe dans l'histoire, hein, pour le dire comme ça, avec quand même des difficultés. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont, dont certains reconnaissent hein, les difficultés. Par exemple, Lukács, qui parle de la praxis comme une relation concrète aux contradictions, dit aussi qu'il y a des effets dégradants et dévastateurs du système capitaliste sur la conscience de classe du prolétariat lui-même. Hein, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Oui, j'en suis convaincu, on en est convaincu, hein, l'intervention directe des classes populaires est un élément central de toute politique révolutionnaire. Et en même temps, il est entravé, oui, par le capitalisme, oui, par l'idéologie dominante, qui est dominante précisément parce qu'elle est dominante, mais y compris jusque dans le cœur et l'âme des prolétaires, elles et eux-mêmes. Hein.
Je crois que c'est vraiment un élément qui est essentiel et qui pour moi, justifie aussi ce livre. Un des points communs aussi de ces penseurs, c'est l'idée qu'il n'y a pas de stabilité dans le capitalisme. Et donc, c'est le cœur aussi. Finalement, alors Marx ne le dit pas comme ça tout à fait, mais c'est aussi le fondement d'une certaine façon. En cela, ils sont assez orthodoxes au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils comprennent en quelque sorte la lecture.
Ils partent de Marx.
Ils partent de Marx, voilà. Mais peut-être on en parlera de leur rapport à Marx, mais ça me semble un élément important parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié quand on parle de Marx. Le sous-titre du Capital, c'est critique de l'économie politique, c'est la critique de la science économique, c'est la critique de cette science économique qui considère que le capitalisme est un régime stable, ou peut-être un régime stable pour peu qu'on ait les bonnes pratiques ou politiques qui suivent. Et c'est exactement le point de départ, dès les années 1840, de la critique de Marx. Et évidemment, ces penseurs-là vont développer ça. Il n'y a pas de stabilité dans le capitalisme. Le capitalisme est toujours un système qui est instable. Et l'autre point qui est important, c'est que cette instabilité est une instabilité structurelle, c'est-à-dire qu'elle est au cœur du fonctionnement du capitalisme. Le capitalisme, effectivement, sur le plan purement théorique, il est soumis à cette espèce de tendance hein, à la dégradation. Mais comme c'est un système dominant, et que par ailleurs c'est un système de domination sociale, et non pas uniquement un système de gestion de l'économie, il fait en sorte que cette tendance économique à la dégradation, hein, pour aller vite cette baisse tendancielle du taux de profit, mais on peut en fait le voir à plusieurs niveaux. La vision de l'instabilité capitaliste qu'a par exemple Rosa Luxembourg n'est pas du tout celle-là. Celle que développe Grossman, j'ai insisté en fait pour que je fasse ce texte sur Grossman, qui est un penseur qui est, alors là, pour le coup, assez oublié aujourd'hui, mais qui me semble extrêmement important parce qu'il a été caricaturé, y compris d'ailleurs par certains de ceux qui sont là, mais aussi beaucoup par l'orthodoxie justement soviétique, hein, comme le penseur, justement de ce que tu disais, c'est-à-dire on s'assoit et on regarde le capitalisme tomber parce qu'il y a une inéluctabilité hein, de la dégradation du capitalisme. Or, précisément, est-ce qu'il va valoir à Grossman les foudres de l'internationale communiste, c'est que Grossman explique précisément que, effectivement, arrive un moment dans l'histoire du capitalisme où la production de plus-value est de plus en plus difficile et de plus en plus insuffisante, où les gains de productivité sont de plus en plus compliqués à dégager, mais où, précisément, le capitalisme a des solutions pour gérer ce sous-régime, entre guillemets. Il a des solutions qui est, en fait, l'augmentation de l'exploitation du travail. On pourrait ajouter, avec Lukács, l'augmentation de l'aliénation. Ça, on en reparlera, puisque tu l'as évoqué, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez complémentaire. Mais en tout cas, l'augmentation de l'exploitation, c'est-à-dire le passage de la plus-value relative à la plus-value absolue, c'est-à-dire l'augmentation du temps de travail, la baisse du salaire réel, la dégradation des conditions de travail, la concurrence entre les travailleurs. Enfin, bref, ce que décrit Grossman, c'est ce qui se passe depuis les années 70, à notre époque. C'est ce capitalisme qui, pour survivre, tape et tape de plus en plus fort. Alors, il a d'autres méthodes, hein, la financiarisation, tout ça. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même un fil directeur depuis 50 ans qui va dans le même sens, qui est celui de la dégradation des conditions de travail des travailleurs et une pression sur les salaires. Et dans la dernière partie de son livre, moi, quand j'ai lu en fait, le livre de Grossman, ce livre avec ce titre improbable, qui est aussi une théorie des crises, et ça, c'est important aussi parce que c'est fondamental, j'ai été surpris parce que j'ai lu un texte qui ne correspondait pas du tout à ce que j'en avais entendu par ailleurs. Voilà. C'est un texte extrêmement lucide. C'est un texte qui n'est jamais justement dans le caractère inéluctable. C'est-à-dire qu'il décrit un phénomène qu'il pense être une loi du fonctionnement du capitalisme, qui est celle d'un effondrement sous-jacent, on va dire, mais qui ne conduit jamais, en fait, au fait que le capitalisme, à un moment, est à court de recours, en quelque sorte. Et Grossman termine en disant « La seule façon d'en finir avec un capitalisme de sous-régime qui, par contre, est de plus en plus destructeur, et la vision, là, de Grossman me semble encore plus intéressante, parce que lui, il pense en termes social et économique, mais on pourrait rajouter, comme tu l'as dit, l'élément écologique, l'élément anthropologique, l'élément, je dirais, de la santé humaine. Enfin, voilà. Pour stopper cette destruction qui, pour le coup, est propre à la survie du système capitaliste, la seule solution, c'est la lutte de classe. C'est qu'à un moment, les travailleurs se reconnaissent comme la force capable d'en finir avec cette destruction. Et c'est là où, effectivement, c'est pour ça que je me félicite que tu aies fait ce lien, parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est là où, effectivement, se joue la question de la conscience, qui est traitée principalement par Lukács dans ce petit livre, mais en fait, qui est aussi, par exemple, traitée par Pankouk, qui est quelque chose qui hante Pankouk tout au long de sa réflexion dans les années 30, 40 et 50. C'est... Bah, comment on fait, nous, intellectuels, hein, Pankouk, c'est un astronome au départ, donc il n'est pas, voilà, c'est pas du tout
On découvre d'ailleurs dans ton livre qu'il y a un cratère sur la Lune qui porte son nom. Donc,
ouais, il est du côté de la face cachée, on ne le voit pas, hein, mais effectivement. Donc c'est un bourgeois, Pankouk. Et d'ailleurs, il a toujours refusé, pour cette raison même, de dire d'être un leader d'un mouvement. Il a dit, c'est pas à moi, en fait, d'expliquer au prolétariat ce qu'il doit faire. C'est le prolétariat qui doit lui-même se saisir. Et en même temps, le prolétariat, eh ben, il se saisit pas toujours de ça. Et donc, se pose la question, et vraiment, je trouve que là-dessus, c'est là où réellement Histoire et conscience de classe de Lukács reste un livre absolument central et déterminant. C'est que, comme le dit Lukács, la lutte de classe, elle a deux pieds. Le premier pied, c'est la lutte, évidemment, contre la bourgeoisie et l'organisation sociale bourgeoise, sociale et économique. Et puis la deuxième plaie, c'est la lutte du prolétariat contre lui-même. Pas au sens d'une fraction du prolétariat contre lui-même, même si ça peut prendre ces formes-là. Mais, comme tu l'as dit, à l'intérieur même du prolétaire, il y a ces deux éléments. Il y a l'élément que le travailleur participe au système capitaliste, qu'il en vit, qu'il en a besoin pour vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Il a besoin d'un salaire, il a besoin d'un emploi, sinon il meurt de faim. Et qu'en même temps, il est la seule force capable de comprendre et de réaliser pratiquement le dépassement de ce système. Et c'est dans cette contradiction interne que se situe précisément la question de la révolution, pour dire un grand mot, mais en fait du dépassement du capitalisme, pour être plus précis, en quelque sorte. C'est dans cette contradiction interne, précisément, que des gens comme Rühle ou Pankouk vont dire, en fait, bah pour régler cette contradiction interne, qui est le fruit de la séparation originelle, celle du producteur et du fruit de son travail, celle du travail concret et du travail abstrait, en quelque sorte, eh bien, pour régler ça, il faut effectivement avoir cette prise de possession de l'outil de production, mais encore une fois, pas simplement pour avoir, pas comme on avait en RDA, des Volkseigene, des sociétés qui appartiennent au peuple. C'est pas ça. C'est que
ce sont des sociétés qui appartiennent au peuple, qui sont gérées par, par les travailleurs et qui sont gérées dans l'intérêt général. C'est-à-dire que, eh bien, là, c'est là où, effectivement, encore une fois, Lukács est un penseur extraordinaire de ce point de vue-là. La résolution de la contradiction interne du prolétaire, c'est la pensée de la totalité. C'est-à-dire, c'est la pensée de pouvoir concevoir le monde dans sa totalité, c'est-à-dire le monde comme géré par la domination du capital. Et ça, ça rejoint la question de l'intérêt général que tu évoquais tout à l'heure avec Rosa Luxembourg. C'est précisément lorsque les travailleurs ont cette pensée de la totalité qu'ils sont capables de prendre en charge l'intérêt général. Parce que précisément, ils sont capables de dépasser cette contradiction interne qui est, je dirais, la force de domination principale du capitalisme et qui naît précisément dans cette séparation originelle.
Il y a des moments hein, comme ça dans l'histoire et même dans l'histoire récente. Hein, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la grève de l'IP. Et l'IP 73, c'est ça. C'est effectivement cette irruption du politique dans le quotidien de l'usine et dans la transformation totale des rapports sociaux. Alors, avec des contradictions. Hein. Il y a notamment des contradictions de genre qui restent éminemment présentes, mais qui sont aussi discutées, qui sont aussi bousculées, et qui sont bousculées parce que le temps de la production a été à la fois suspendu et à la fois réapproprié par les travailleurs et les travailleuses. Ils et elles en sont maîtres. Et en même temps intègre ça, et ça c'est très intéressant parce que on parle souvent de, désolé je fais une petite aparté, mais de l'usine d'un malentendu autogestionnaire autour de la question de l'IP, puisque eux par exemple disaient mais non mais nous on ne fait pas de l'autogestion parce que l'autogestion c'est en gros l'autogestion généralisée de la société égale le socialisme. Ce qu'on fait c'est autre chose, c'est qu'on se bat et qu'on conteste la domination capitaliste concrètement. Et de la même manière ils refusaient par exemple au départ. Par la fin, ils ont été obligés, mais la forme coopérative pour ça. C'est-à-dire qu'ils disaient, mais non, on ne veut pas juste travailler entre nous à égalité et être en concurrence avec les autres ouvriers, ouvrières de l'horlogerie du coin. Ça ne nous intéresse pas. Donc, il y avait bien cette articulation avec l'intérêt général.
Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que vraiment, c'est extrêmement important, parce que ce sont des moments que l'on retrouve, en fait, dans l'histoire. Hein. 1918 en Allemagne, la Commune de Paris, hein, dans le livre d'Henri Lefebvre, que je conseille, qui malheureusement a été remplacé dans la collection de Gallimard par le livre de Michel Vinox, qui est quand même... Bon, bref, mais qui a été republié récemment par La Fabrique, donc il faut lire ce livre de l'histoire de la Commune par Henri Lefebvre. Vraiment, c'est ça qui fascine, y compris quand il écrit, on sent que Lefebvre est fasciné par ça. C'est la vie quotidienne qui change, les gens qui deviennent conscients de quelque chose. On ne sait pas encore exactement de quoi, mais on sent bien que cette idée de la totalité commence à surgir dans leur vie quotidienne par la politisation, par des réflexions, après avec plus ou moins de succès, mais peu importe, parce que, encore une fois, l'histoire, c'est pas une ligne droite, ça prend des chemins, ça s'arrête, puis on revient en arrière, puis on continue, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi aussi, m'intéresse avec ce livre, c'est précisément de montrer qu'il y a des moments où des portes se sont ouvertes. Puis elles se sont violemment refermées, mais elles se sont ouvertes à des moments. Et je trouve qu'effectivement, le travail que tu as fait sur l'IP le montre très très bien. Et ce que tu dis sur l'IP me fait penser que vraiment, en 1923, il y a ces deux livres, Marxisme et philosophie et Histoire et conscience de classe. Deux livres qui vont être combattus par l'orthodoxie marxiste-léniniste de cette époque. Et ces deux livres sont complémentaires pour ça. La conscience de classe, elle naît de la pratique. Et du coup, la pratique construit à la construction de la théorie, qui est précisément la réalisation de cette conscience à ce moment donné. Parfois, elle ne sert plus à rien et elles sont remplacées par autre chose. Mais voilà, c'est cette complémentarité entre pratique, conscience. Et les deux textes de Lukács et de Korsch sont pour ça extrêmement intéressants à lire ensemble, en quelque sorte. Hein. Alors évidemment, ça, c'est juste des petites introductions. Ça, c'est pour donner envie d'aller plus loin. Mais vraiment, je trouve que c'est pour qui s'intéresse aujourd'hui à la question de la lutte de classe, Ces deux textes, et à l'organisation politique de la lutte de classe, ces deux textes sont fondamentaux.
J'en profite aussi pour préciser qu'il n'y a pas que les articles que tu avais réalisés, d'ailleurs qui ont été un petit peu relus,
toilettés.
Voilà. Il y a également une sélection de textes qui a été ajoutée à l'ouvrage, donc pour chacune des penseurs-penseuses agissantes, et qui permettent justement d'avoir un premier accès aux.
Exactement. Et qu'il me soit permis quand même, si tu veux bien, de remercier le collectif des éditions Smolny, parce que c'est un collectif d'édition assez extraordinaire. Ils font tout ça entre eux. C'est vraiment un travail à la fois désintéressé et vraiment d'un sérieux tout à fait étonnant. Et dedans, on a quelques inédits aussi, donc c'est pas précisé et ils ont pas voulu insister là-dessus, c'est tout à leur honneur, mais moi j'ai envie de le dire, il y a dedans des inédits, il y a la traduction d'un texte de Grossman qui n'est pas traduit en français aujourd'hui, il y a la traduction du texte de Pankouk sur la nature qui est un texte extraordinaire, tout à fait étonnant pour comprendre la crise écologique aujourd'hui, et d'ailleurs mon autre livre qui est sorti que tu as cité, je m'appuie beaucoup aussi sur ce texte de Pankouk parce que je trouve que il est vraiment très, très fort. Voilà, il y a tout un tas de textes inédits qui permettent effectivement de rentrer dans ce texte. Et puis, avec un autre élément important, qui est une bibliographie à jour, complète, qui permet là aussi à ceux qui le veulent d'aller plus loin dans la connaissance de ces auteurs. Et je trouve que pour le travail que moi j'avais fait, travail modeste que j'avais fait moi à Mediapart, qui était un peu de faire connaître un peu ces penseurs-là, mais évidemment dans un article de journal en ligne, je ne peux pas mettre un texte de 10 pages, je ne peux pas mettre une bibliographie complète, voilà. Là, on a cet appareil qui vient rajouter cet élément pédagogique qui me semble vraiment, vraiment important.
Aparté nécessaire, parce qu'on parle d'un livre et c'est important de parler effectivement de ce qu'est le travail d'édition et de comment on réalise quelque chose qui à la fin est un objet, un outil, et en l'occurrence plutôt un bel objet, plutôt un bel outil, une belle prolongation des articles en ligne de Mediapart. Pour reprendre un petit peu le fil de notre discussion là, sur la question de la conscience de classe, de la pratique, qui se nourrit de la pratique, je précise aussi pour nos auditrices qu'on parle bien là de pratique collective. On n'a pas là des gens qui nous parlent de développement personnel, comment s'émanciper soi-même.
Pour quelqu'un comme Lukács, notamment à travers sa réflexion sur l'aliénation, la question de l'individu est une question importante. Mais évidemment, l'individu est toujours conçu dans son développement et sa liberté comme un individu social. Et donc, évidemment, ça n'est pas un coach de développement personnel.
Non, non.
Ça peut être un coach de développement, disons, des luttes sociales, mais pas personnel.
Quelqu'un qui donne envie de militer, et quelqu'un qui donne un livre qui donne envie d'y aller dans l'arène du combat social. Et du coup, une question qui est intéressante aussi et sur laquelle un peu je propose que ce soit celle sur laquelle on aille vers la conclusion de notre entretien, qui est comment est-ce que cette conscience de classe qui naît en réalité d'une construction collective de la confiance. Il y a une articulation confiance collective. On prend une conscience de soi en tant que classe à partir du moment où on a une confiance de notre capacité politique, autonome, à agir et puis à transformer et à changer le monde. Tu l'as dit, il y a quelque chose de toujours présent qui ressurgit. Moi, il y a un terme que j'aime bien qui est le titre d'un ouvrage de Charles Rive, qui est le pseudonyme, l'autre nom de plume de Georges Valadas, qui s'appelle le socialisme sauvage. C'est-à-dire que lui, il distingue comme ça une sorte de continuité de ce socialisme sauvage, donc qui ferait irruption régulièrement. Et en même temps, ça pose néanmoins la question, et là c'est une question, et d'ailleurs tous, là, on l'a évoqué, n'ont pas la même réponse là-dessus, sur l'articulation qui peut exister entre spontanéité de cette irruption du socialisme sauvage et nécessité de l'organisation, et donc aussi travail sur faire advenir la conscience, tout en précisant, parce que, et ça c'est là pour le coup tout le monde est d'accord là-dessus dans les penseurs et penseuses qu'on a, il ne s'agit absolument pas d'une vision justement qui est celle de Trotsky et du premier Lénine de Que faire, de la conscience de classe qui est importée de l'extérieur, qui ne peut être importés que par des intellectuels. Hein. C'est bien quelque chose de bien plus, plus dialectique qui se joue. Donc voilà, ça c'est cette histoire d'articulation spontanéité-organisation. Je trouve qu'elle est intéressante à poser à partir du livre. Et comment toi, tu vois cette question ? Quel est l'espace politique qui peut se dessiner pour ça, entre spontanéité et organisation, ou avec spontanéité et avec organisation ?
C'est en fait une question évidemment extrêmement complexe, avec, tu l'as dit, des réponses qui sont très différentes selon les penseurs, et même parfois très différentes selon les époques de certains penseurs. Donc c'est aussi, il ne faut pas oublier que les premiers de ces penseurs, hein, Rosa Luxembourg, Pankouk, Otto Rühle, ils ont tous été membres du SPD allemand avant la Première Guerre mondiale, grand parti de masse, premier parti socialiste d'Europe, centre névralgique de la pensée intellectuelle du marxisme, pour le coup la orthodoxe organisée par Kautsky à cette époque-là, etc. Voilà, où il y avait des débats, où il y avait des choses, mais qui avait pour vocation, et d'ailleurs Rosa Luxembourg l'a fait, hein, d'éduquer les masses. Les livres d'économie politique de Rosa Luxembourg sont des cours donnés à des ouvriers qu'elle a donnés en tant que militante du Parti social-démocrate. Donc, c'est aussi cet échec-là. C'est-à-dire, c'est aussi le 4 août 1914, lorsque toutes les social-démocraties européennes basculent dans la Burgfriede ou l'Union sacrée, selon ce qu'on voudra, qui frappe aussi ces gens-là. C'est finalement l'échec de ce grand parti de masse qui devait créer une société alternative à l'intérieur de la société capitaliste et qui, au premier coup de canon, devient une partie de la société capitaliste. Et donc, effectivement, c'est le point de départ de tout, des pensées de tous ces gens-là. À partir de ce moment-là, évidemment, pour ceux qui l'ont vécu et pour les autres, ça a été un traumatisme, évidemment, fondamental. Donc, la question de effectivement l'exportation de la conscience par les intellectuels, y compris les intellectuels venus, faut pas oublier Friedrich Ebert, au départ c'est un ouvrier, c'est un artisan, c'est un quelqu'un du peuple. Donc évidemment ça va poser des problèmes, ça va poser aussi des problèmes en termes de qu'est-ce que c'est que cette spontanéité, parce que effectivement après 1919 on va voir cette spontanéité. Parfois, elle ne sera pas tout à fait spontanée. Elle sera un peu travaillée par notamment le SPD, l'USPD, le KPD en Allemagne, hein, tous ces partis qui vont... Voilà. Pour des gens comme Pankouk et Rühle, la spontanéité, elle est essentielle, au sens où, effectivement, il faut que ce soit les masses eux-mêmes, hein, on l'a dit, qui soient vraiment... Ils prennent au sérieux le mot de la Première Internationale. L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut le travailler. Et donc, il faut à un moment, effectivement, qu'il y ait ce basculement de conscience. Pankouk est très ennuyé avec ça, en fait. Parce qu'il reste quand même ce grand penseur de la social-démocratie d'avant-guerre. Il sait qu'en fait, il y a ces éruptions de socialisme sauvage, mais il sait que aussi, si on les laisse aller à eux-mêmes, c'est compliqué, quoi. C'est d'ailleurs le fondement, encore une fois, de la pensée de Korsch. C'est de dire, si vous avez uniquement de la pratique, en fait, vous allez dans le mur. Il faut qu'à un moment, cette pratique donne lieu à une théorie qui est le reflet de cette pratique pour pouvoir organiser cette pratique. Organiser, ça ne veut pas dire que la théorie que les intellectuels vont dire aux gens, voilà comment il faut faire. C'est que les travailleurs eux-mêmes vont être à la source de cette théorie et qu'ils vont se l'approprier dans leur pratique. Donc, c'est une dialectique entre la pratique et la théorie. Et c'est cette idée de dialectique qui est entre théorie et pratique, qui est au centre de la pensée de Korsch, mais aussi de celle du Lukács d'histoire et de conscience de classe. Et c'est cela, en fait, qu'il faut essayer aujourd'hui de réinvestir en se posant cette question-là. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là. En fait, ce livre montre que je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire et je ne veux pas dire ce qu'il faut faire. Et dans mon autre livre, j'insiste bien sur les choses. Vraiment, je ne vais pas vous donner de solution, donc je ne donnerai pas de solution. Mais c'est intéressant aussi de voir les réflexions qu'a Pankouk vis-à-vis de ça. Quand il dit, nous, les intellectuels, on a un travail aussi à faire. Voilà. Mais on a un travail, mais ceux qui feront, ce seront les prolétaires.
Et donc, la vraie question, celle qui se pose aujourd'hui, très concrètement, c'est comment, régler, parvenir à ce que le prolétariat, à un moment, ait cette idée de la totalité, qui est le synonyme de la conscience. Face à ça, les adversaires, ils sont politiques, mais ils ne sont pas que politiques. Et c'est là où, en fait, Lukács est aussi important. Et là, pour le coup, cette pensée de Lukács va avoir une postérité à travers le marxisme occidental, la critique de l'école de Francfort, la pensée de Guy Debord et d'autres. Mais je trouve que c'est un élément essentiel, c'est que Lukács remet la question de l'aliénation, en fait, sur le tapis. C'est-à-dire qu'à un moment, dans cette fameuse division interne entre, qui traverse le travailleur, qui maintenant d'ailleurs est concrète, c'est-à-dire qu'une partie des revenus des travailleurs est aussi une partie, peut-être aussi, des revenus du capital. C'est souvent, on nous dit, ah bah oui, mais il n'y a plus de prolétariat parce que les gens ont une maison, ont des revenus du capital, etc. Mais oui, mais non. En fait, c'est évidemment dans cette division, dans cette séparation que prend cette position-là, que prend cette réalité-là. Et Lukács, lui, dit, bah non, évidemment, il y a ces aspects concrets, mais il y a un autre aspect qui est que, en fait, pour sa propre survie économique, le capitalisme rend le prolétaire étranger à lui-même, dans la figure du consommateur. Et ce consommateur qui va se régaler des délices qu'on va lui présenter comme des délices de la consommation, il a du mal, en fait, à redevenir un prolétaire quand il se met au travail. Et donc, lui, ce qu'il veut, en fait, il va pleinement faire partie du fonctionnement du système capitaliste. Et il va chercher, en fait, comment il peut mieux faire fonctionner ce système pour toujours avoir accès à ces choses-là. Donc, grâce à Lukács et à la redécouverte qui va ensuite se faire des manuscrits de 44, notamment des penseurs qui vont suivre Lukács, qui vont être dans ce qu'on a appelé l'école de Budapest, Ivan Mészáros, Agnès Seller, etc. Ce sont des penseurs qui vont précisément placer cette question de l'aliénation au centre. Et donc, dans les deux parties de la lutte de classe que définit Lukács, hein, contre la bourgeoisie et contre le prolétariat lui-même, en quelque sorte, en fait, on a les deux piliers de ce qui fait la force du capitalisme, qui sont définis par Marx dans deux textes, qui est l'exploitation, évidemment, pour le capital, et l'aliénation pour les manuscrits de 44. Et la lutte, en fait, aujourd'hui, elle doit aussi porter sur ces deux piliers. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une lutte contre le phénomène d'aliénation, pour qu'à un moment, on ne se contente pas de lutter pour l'amélioration des conditions existantes. C'est évidemment une lutte qui est essentielle à mener. Qu'on ne se contente pas de lutter pour défendre des acquis, c'est aussi une lutte qui est essentielle à mener. Mais que, en fait, ces luttes-là puissent ensuite alimenter quelque chose de plus radical et de plus fondamental qui est la lutte contre l'aliénation. Et ça se fait par un mot d'ordre qui a été défini par Marx dans un texte plus ancien que Le Capital, hein, où il dit il faut en fait que la lutte ne soit pas que la lutte contre les effets, mais contre les causes des effets. Et c'est exactement, en fait, à mon avis, ce que ces huit penseurs se sont ont essayé de faire. Ne pas lutter que contre les effets. Encore une fois, c'est important. On a parlé de Paul Matic. Paul Matic, il a organisé le mouvement des chômeurs pendant la crise de 1929. C'est pas quelqu'un qui
est assis sur sa chaise.
Voilà, ouais. on n'est pas dans ce domaine-là. Et jamais ces gens-là disent il faut abandonner le terrain, il faut abandonner les problèmes des travailleurs, leurs problèmes concrets. Mais il faut que ces problèmes concrets soient la porte par laquelle, en fait, on s'attaque aux causes des effets. Et dans ces causes des effets, il y a autant l'exploitation économique, sociale, que l'aliénation. Ces deux piliers, exploitation et aliénation, on pourrait dire que c'est ça, la domination du capital. Et donc l'émancipation, c'est aussi de lutter sur ces deux, contre ces deux piliers.
Et c'est quelque chose qu'on voit rejaillir, hein, de toute façon, par exemple, dans un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, qui part de questions bassement économiques. J'aime pas ce terme-là. Moi, je suis syndicaliste. En plus, je crois vraiment que la question... que le syndicalisme est une école de praxis, hein, d'une certaine manière, notamment quand il est pratiqué par en bas et par la gauche, on va dire. Mais néanmoins, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire où des moments d'irruption de lutte sur des questions économiques peuvent aussi être des moments de prise de conscience et où vont émerger des choses, des éléments de pensée qui peuvent être, c'est jamais un diamant brut, hein, qui peuvent être imparfaits, traversés de contradictions, etc., etc., mais néanmoins qui sont le fruit de l'action directe, etc. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça rejoint aussi la préoccupation qu'il y avait dans les articles, hein, puisque c'est comment inspirer la gauche, ou je me souviens plus quel est le...
Oui, parce que ce sont des articles qui entrent dans des séries plus larges, où il y a d'autres penseurs qui ont été...
C'est-à-dire qu'aussi, d'une certaine manière, ces penseurs-là ne sont pas dédiés à un courant étroitement conseilliste ou même à quelques courants de gauche marginaux qui peuvent compter par ailleurs, hein, parce que ça, on a bien vu que des minorités militantes agissantes peuvent compter dans l'histoire et permettre que des choses adviennent. C'est bien parce qu'il y a des gens qui ont critiqué et qui se sont battus contre le stalinisme, y compris lorsqu'il était triomphant, tout un courant de pensée critique a su se maintenir et être disponible à un moment où rejaillit justement ce socialisme sauvage. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant et qui fait que ces penseurs-là, ces idées-là, méritent d'être travaillées aujourd'hui. Est-ce que tu vois, toi, et vraiment dernière peut-être question, des endroits aujourd'hui où ces questions sont mises en tension. Toutes les questions un petit peu qu'on a, que ce soit dans la gauche syndicale ou politique. Moi, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, parmi les syndicats, tu parlais de la question de l'aliénation, de la question de l'exploitation. On tombe beaucoup du côté de l'exploitation et on ne travaille pas assez cette question de l'aliénation. Hein. Par exemple, très récemment, il y avait une micro-polémique autour de ce qu'avait dit Sophie Binet, qui avait dit qu'il ne voulait pas la chute du gouvernement. Moi, il me semble que c'est pas ça le fond du problème. C'est pas tellement que la secrétaire générale de la CGT souhaite pas la chute du gouvernement. La question, c'est plutôt qu'est-ce que veut la CGT aujourd'hui, par exemple. Hein, voilà.
Alors, c'est aussi pour cette raison que j'ai accepté qu'on a décidé avec le collectif Smolny de publier ce petit texte que je conçois par ailleurs comme un complément du texte que moi je sors ces jours-ci à côté. C'est que en fait je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, et c'est le produit de l'histoire, c'est un peu normal, dans les organisations politiques et syndicales, il manque, en fait, il y a des angles morts. Il y a des angles morts qui empêchent de comprendre les échecs des mouvements sociaux. Moi, je n'ai pas de problème avec les échecs des mouvements sociaux, en fait. Je l'ai dit, hein, l'histoire n'est jamais circulaire. La commune est un échec absolu, et ça reste un élément d'inspiration et de réflexion. D'autres le sont, le mouvement des conseils, la révolution allemande, italienne, hongroise, tout ça, peut-être aussi. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai plus un problème avec le fait que on ne réfléchisse pas sur ces échecs, en quelque sorte. C'est au-delà de l'aspect politicien, je ne sais pas quoi, il y a eu un 49-3, un machin, les gens ne voulaient pas, je ne sais pas quoi. Bah oui, si les gens ne veulent pas, allez les chercher. Enfin, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire. Je me dis que, précisément, ces penseurs-là ont cette capacité de pouvoir donner des outils et des outils de réflexion et des outils pratiques. C'est pour ça aussi que j'ai mis Sylvia Pankhurst, qui est une militante plus qu'une une simple théoricienne, même si elle a écrit de très beaux articles dans son journal le Workers' Dot Note. Elle est surtout une militante de terrain qui se bat contre toutes les dominations, là pour le coup, sexistes, coloniales et la domination du capital. Mais voilà, j'ai voulu aussi qu'il y ait ça, parce qu'il y ait quelqu'un comme ça, parce que voilà, c'est aussi quelque chose d'important, cette cette pratique. Donc, réfléchir à ce que sont nos pratiques militantes, ce que sont nos pratiques de mouvements sociaux. Utiliser les mouvements sociaux comme porte d'entrée, encore une fois. Les effets, la cause des effets. Et je dois avouer que, là, je parle de façon très, très personnelle, mais c'est un peu le sens de ta question, donc je me permets de le faire, mais moi, j'ai été un peu traumatisé par le mouvement retraite de 2023, où j'ai eu l'impression de faire beaucoup de marches dans Paris. Bon, c'est pas désagréable, parce que Paris est une ville magnifique au demeurant. Bon, alors, à la fin, c'était moins agréable, parce que y avait beaucoup de policiers, et ils étaient un peu agressifs. On finissait la marche, et on attendait, en fait, la date de la prochaine marche. Et le jour où le 49-3 est passé, ben, terminé, il n'y avait plus rien, c'était fini. Encore une fois, bien sûr, plus facile à dire qu'à faire. J'ai écrit des articles, on a écrit avec mon collègue Dan Israël dans Mediapart, des articles sur cet échec, pourquoi, ce qui a manqué au mouvement syndical, qui par ailleurs est un mouvement qui est en difficulté aujourd'hui sur le plan, sur plein de plans. Mais il y a quand même cette question qui est au cœur de la pensée de quelqu'un comme Lukács et de Korsch aussi, de la passivité. Finalement, on était les spectateurs de notre propre mouvement social et on s'est laissé un peu déposséder ce mouvement social. Comme tu l'as dit, il y avait des slogans intéressants dans les manifestations. Il y a eu des AG intéressantes dans des usines, dans des lieux de production, dans des choses. Et on a eu l'impression qu'il n'y avait pas ce quelque chose qui permettait de faire en sorte que, précisément, on dépasse la simple lutte contre une réforme scélérate du système des retraites. Les causes de cette réforme. Pourquoi, à chaque fois qu'on a une réforme, on en a une autre 3 ans après? Pourquoi le mouvement de 95, le succès du mouvement de 95 s'est transformé en échec? Et pourquoi on essaye de reproduire ce mouvement de 95 en permanence alors que précisément il s'est fait déborder l'histoire a montré qu'il s'était fait déborder. Donc moi, voilà, c'est toutes ces questions que je trouve passionnantes par ailleurs, en tant que journaliste et en tant que quelqu'un qui essaye de réfléchir sur notre époque, mais où je trouve qu'il y a quelque chose qui manque là. Et tu l'as dit, je pense qu'un des éléments qui manque, c'est l'élément du combat contre l'aliénation. Et c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la course aux adhérents, quand vous êtes dans la course aux électeurs, allez leur dire, c'est ça le truc de Lukács. Lukács dit, il faut mener la lutte contre nous-mêmes aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas meilleur que les autres, mais ça veut dire qu'il faut aussi se regarder dans un miroir. Et donc, quand vous êtes, en fait, dans la course à l'électorat ou à l'adhérent, vous ne pouvez pas dire à l'adhérent, y a aussi des problèmes qui viennent de toi. Ou à l'électeur, mais ce que tu veux, en fait, pardon, mais ça ne va pas. Il ne faut pas vouloir ça. Enfin, ça ne va pas. On ne peut pas faire ça. Ou si tu veux ça, à ce moment-là, il faut assumer ce qui va avec. Si tu veux les délices de la consommation capitaliste, il faut assumer ce qui va avec. Ce qui va avec, c'est la crise sociale, c'est le mal-être généralisé, c'est la crise économique. Et donc, il ne faut pas venir dire « Ah bah ouais, mais je ne veux pas ». Si tu ne veux pas, à ce moment-là, il faut que toi, tu te saisisses de ce refus pour aussi bouger. Le mouvement politique et syndical, il est aussi là pour pointer ça, pas pour dire aux gens « Vous êtes des abrutis », etc. Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de pointer ces contradictions-là. Et les gens ensuite s'en saisissent. Vraiment, c'est le mouvement que décrit Pankouk. L'intellectuel est là pour dire, on a ça et ça comme petit problème, et le mouvement social se saisit de ces problèmes et crée sa propre pratique et sa propre théorie ensuite qui va venir avec. Tu évoquais les Gilets jaunes. C'est un mouvement extraordinaire, les Gilets jaunes. C'est un mouvement qui, effectivement, part comme une jacquerie fiscale. Pour une partie du mouvement, d'ailleurs, c'est une jacquerie fiscale et ça s'arrête une fois que la question fiscale s'arrête. Et puis, la pratique de la révolte, de l'insurrection, la résistance du système, la violence policière, fait qu'à un moment, une partie de ce mouvement-là décide de se poser la question. Mais pourquoi, en fait, nous qui étions des citoyens normaux, on se fait tabasser avec cette violence? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a touché? Et donc là, ça commence à partir. Quand j'ai relu Marxisme et philosophie, j'ai pensé aux Gilets jaunes. Je me suis dit, mais oui, cette dialectique pratique-théorie, inachevé dans le cas des Gilets jaunes, malheureusement. Mais encore une fois, inachevé. Pourquoi inachevé ? C'est là où on a besoin d'intellectuels, de politiques, de syndicalistes qui vont précisément aller labourer ce terrain-là, utiliser, saisir ce moment-là, ces moments de socialisme sauvage, comme dit Georges, pour aller en faire quelque chose qui est une force, une vraie force politique au sens global du terme, pas une force électorale, une force politique. Voilà. Et je trouve qu'effectivement, le camp de l'émancipation, soit c'est enfermé dans des sujets très précis sur lesquels, en fait, on perd un peu ce sens de la totalité, en dépit de l'intérêt de ces sujets, soit c'est perdu dans cet électoralisme ou cette course à l'adhérent. Course, c'est une façon de dire, puisqu'il y a de moins en moins d'adhérents. Donc, en fait, dans cette défense des adhérents, qui fait que on se referme sur des points très précis et que on perd un peu, voilà, et qu'on perd en fait cette question de la totalité, qui est la question par laquelle arrivera l'émancipation. Parce que dans la question de la totalité, il y a les deux voies. Il y a l'exploitation et il y a l'aliénation.
Très bien. Bon, écoute, merci Romaric pour ce un petit peu plus d'une heure qu'on a passé ensemble. C'était passionnant d'échanger avec toi. Et d'abord, vous pouvez donc bien sûr vous jeter sur Penser l'émancipation autrement, 8 marxistes hétérodoxes publiés aux éditions Smolny. Sur les autres ouvrages de Romaric Godin, je les rappelle, La guerre sociale en France, publié en 2019, et celui qui vient de sortir, Le problème à trois corps du capitalisme, tous deux aux éditions La Découverte. Pour continuer à mettre de l'émancipation et du socialisme dans le moteur de nos mobilisations, je vous invite à lire Contre-temps, qui vient de faire peau neuve d'ailleurs avec un tout nouveau site, d'écouter les podcasts de Contre-temps, C'est quoi le plan et Contre-son, disponibles sur la plateforme Spectre, tout cela étant bien entendu également en ligne sur nos réseaux sociaux. Merci Romaric.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation à toutes et tous. Bonne manifestation, bonne mobilisation et bonne lecture. Spectre.